Popopienne, popopien et tous les autres aussi, bonjour. Pour quelqu'un comme moi qui aime la BD, se retrouver en compagnie d'un auteur de l'envergure d'un Jacques Tardy et qui plus est à quelques jours du 11 novembre où l'on s'apprête à célébrer la fin de la grande boucherie à laquelle il consacra tant de pages admirables, est un événement en soi qui ravive la flamme du soldat que je n'ai jamais été et de l'inconnu que j'ai cessé d'être pour des raisons tout à fait indépendantes de ma volonté. Oui, c'est Tardy vraiment que je recroise enfin sa route et le cœur du poilu que je ne suis pas non plus. Alors pour des raisons d'ordre strictement génétique, bat un peu plus vite aujourd'hui. Parce que Tardy ne raconte pas seulement l'histoire avec un grand H, mais notre histoire à tous, à travers des destins singuliers, certes passés au moulin de la fiction en compagnie des meilleurs auteurs, les Mallet, les Céline, les Manchette, les Pénac, les Vautrin, mais toujours au service d'un réalisme électrisant qui se méfie comme de la peste de la notion d'héroïsme, sans même parler de super-héroïsme. Non, pas de super-pouvoir chez Tardy, mais une résistance acharnée au pouvoir tout court et à tous ses abus. Preuve encore aujourd'hui avec cette Élise et les nouveaux partisans qu'il signe avec une artiste qu'il connaît, disons-le, plutôt bien, Dominique Grange, et qui nous replonge dans la fièvre militante de la fin des années 60. Ce sont nos deux invités aujourd'hui et Pop, c'est parti.
France Inter, Pop, Antoine de Caunes.
Moi c'est Tardy.
Moi c'est Dominique Grange, bonjour. Nous sommes très heureux d'être reçus par Antoine de Caunes pour ce pop-pop-pop d'aujourd'hui, car tout comme lui, nous avons été et nous serons des enfants du rock.
Bien, bonjour à vous deux.
Bonjour.
Nous voici bonjour. Donc en bonne compagnie entre enfants du rock. On va finir par être des petits enfants du rock à ce rythme-là, non?
Oui, on l'est déjà un peu, non?
Bon, mais vive le rock. Le rock est une musique qui vraiment a compté pour vous, Dominique, Jacques?
Ah oui, énormément, ouais. Oui. Ça a commencé par le blues,
ouais.
Et puis assez vite, ça a évolué vers le rock, c'est notre jeunesse. Et aujourd'hui, c'est toujours là, on peut absolument pas s'en passer. C'est une vraie musique populaire.
Ouais. Jacques, pareil?
Oui, moi aussi. Des longues périodes rock'n'roll et puis des longues pistes aussi où je n'écoute rien du tout.
Ouais,
puis j'y reviens, etc.
Bon, Élise, ce n'est pas votre première collaboration, mais je voudrais d'abord savoir, et sans être indiscret, vous me connaissez, et puisque vous êtes un véritable couple, ce que ça change au quotidien d'avoir son scénariste ou son dessinateur disponible 24 heures sur 24 quand on se lance dans ce genre d'entreprise.
Alors, c'est pas exactement le même travail qu'avec un scénariste professionnel, évidemment. Ouais. En fait, moi, ce que je préfère, c'est pas tellement bosser avec un scénariste, c'est adapter un bouquin. C'est-à-dire ne pas avoir l'auteur sous les yeux et faire exactement ce que je veux à partir de cette matière première qu'est un roman.
Il n'a pas été le cas pour Élise, donc.
Non, là, c'est autre chose. On était donc l'un en face de l'autre. Ça faisait des années que je disais à Dominique, raconte ton histoire, etc. Ça a traîné un petit peu. Elle s'y est mise. On a commencé à faire quelques croquis. Et puis, elle a écrit aussi. Par moment, je lui disais, attends, là, il y a peut-être un petit peu trop de texte, il faudrait qu'on s'aère un peu, qu'on passe à autre chose, qu'on n'ait que le dessin remplisse sa fonction.
Scénariste, Dominique, vous confirmez cette version des faits?
Oui, tout à fait. C'était même quelquefois, c'était houleux, parce que j'écrivais trop, je détaillais trop, je faisais des descriptions.
Qu'on s'aère.
Alors il me disait, mais laisse-moi de la place pour l'image, parce que si tu racontes tout, qu'est-ce que je dessine?
Ben oui, mais en même temps, c'était votre histoire. C'était votre histoire, donc vous aviez, j'imagine, sans arrêt des choses à rajouter, à raconter.
Ouais.
Bon, on va en parler longuement de ce livre, Élise et les nouveaux partisans, qui sort aujourd'hui même chez Delcourt. Et puisqu'il va être beaucoup question de 68 dans l'heure qui vient, je vous propose d'ouvrir le bal par une de vos chansons, Dominique. C'est Chacun de vous est concerné.
Même s'il n'y a pas eu de manif dans votre rue, même si votre voiture n'a pas été incendiée, même si vous vous en foutez, chacun de vous est concerné. Même si vous avez faim de croire qu'il ne se passait rien, le pays entier, les usines s'arrêtaient, même si vous n'avez rien fait pour aider ceux qui luttaient, même si vous vous en foutez. Chacun de vous est concerné, même si vous avez fermé votre porte à notre nez, une nuit que nous avions les CRS au talon, si vous nous avez laissé matraquer sur le palier, même si vous vous en foutez. Chacun de vous est concerné, même si dans votre vie tout est resté bien tranquille, sans pavé, sans barricade, sans blessé, sans grenade, même si vous avez gobé ce que disait la télé, même si vous vous en foutez. Chacun de vous est concerné, même si vous croyez maintenant tout est bien comme avant, parce que vous avez voté l'ordre et la sécurité, même si vous ne voulez pas que bientôt on remette ça, même si vous vous en foutez. Chacun de vous est concerné.
Chacun de vous est concerné. C'est Dominique Grange qu'on vient d'écouter. La version originale, hein.
Oui, oui, absolument,
de la
d'époque.
Chanson. La version d'époque. Et à propos de mai 68, vous en parlez dans cette chanson, et un demi-siècle plus tard, vous êtes à ce point convaincu qu'on est toujours concerné, que vous avez écrit cet album « Élise et les nouveaux partisans » que Jacques Tardy a donc dessiné. On va en parler en détail avec Charline dans quelques instants, mais avant, puisqu'on y suit les aventures de Dominique, enfin, pardon, Élise, je voudrais savoir l'impact qu'a eu sur vous cette période, surtout après ces années passées à raconter la Première Guerre mondiale, puis la Seconde, à travers celle de votre père. Quel impact a eu la période de 68 sur vous, Jacques ?
Moi, j'étais pas militant. J'étais aux Arts Déco. Évidemment, je me baladais au Quartier Latin. J'ai trimballé des grilles d'arbres pour participer à la construction de certaines barricades, n'est-ce pas ? J'étais très curieux de tout ça. Mais ce qui m'intéressait, moi, c'était les idées, évidemment, qu'on captait. C'était de les mettre en scène, de les utiliser dans des histoires. Plutôt que de militer au sein d'un groupe, c'était pas mon truc. Alors c'est ce que j'ai essayé de faire après. Je me suis retrouvé donc fin des Arts Déco, diplômé. Je suis même jamais allé chercher mon diplôme à l'école. Il doit toujours être dans un tiroir. Je me suis retrouvé chez Dargo au magazine Pilote. Bon, c'est les balbutiements, les débuts du boulot comme ça, mais très rapidement, je fais une bande avec Christin qui s'appelle Rumeur sur le Rouvert, où il y avait des préoccupations 68ard, l'histoire d'une grève, etc. Donc voilà, ça me plaisait, l'idée d'utiliser la bande dessinée pour véhiculer des idées.
C'est là que les routes, enfin vos routes s'étaient croisées depuis 77, puisque vous aviez commencé, vous étiez rencontré dans ce journal qui s'appelait l'Hebdo. C'est ça,
BD.
BD
l'hebdo de la BD.
L'hebdo de la BD du Square, ça.
Ouais, les éditions du Square, donc toute la bande Harakiri, Charlie. Mais vous, 68, alors vous étiez vraiment en pleine action à ce moment-là.
Oui, mais moi j'étais pas militante non plus quand 68 commence. Sauf que un jour j'entends à la radio Lenny Escudero, qui était très connu. Qui dit, mais oh, les artistes, vous êtes gentils, mais vous savez que c'est quoi la grève chez les artistes? Mettez votre grève au service des gens qui luttent, restez pas chez vous à regarder vos instruments silencieux, faites quelque chose, allons les soutenir, venez à Renault et tout. Et je suis partie avec ma guitare, et puis après, je suis pas rentrée pendant un mois et demi, quoi. Et le fait d'aller chanter dans les usines tous les jours, de rencontrer les gens qui étaient en lutte, de savoir pourquoi ils luttaient, voir leurs conditions de travail, leurs conditions de vie, et percevoir aussi que ils se battaient pas seulement pour avoir quelques miettes, ils se battaient pour que tout ça change et pour que la vie soit autrement, pour un autre monde. Enfin, il y avait vraiment un élan révolutionnaire qui était extraordinaire, et ça, je pouvais pas le quitter quand le mouvement s'est terminé. Tout le monde a repris le chemin des usines, des bureaux, des boîtes. L'ORTF a été vidé de sa substance. Elle a perdu des charrettes entières de journalistes, de gens qui s'étaient battus eux aussi. C'est important de le rappeler parce qu'on le sait peut-être pas toujours, même dans cette grande maison. Ben, pour moi, retourner, recommencer à faire ce que je faisais avant, c'est-à-dire m'occuper de ma petite personne, de réussir, d'avoir de plus en plus...
C'était pas possible.
Non. Je pouvais pas les quitter. Je vivais ça comme une espèce d'abandon. Les gens qui avaient lutté, ils avaient pas réussi à faire la révolution et on devait être à leur côté pour la suite.
Et ça, c'est au cœur donc de cette histoire d'Élise et les nouveaux partisans. Jacques, je reviens un instant à vous. Jacques Tardy, j'ai l'impression que ce qui court à travers vous, toute votre œuvre, c'est le souci de l'humain. Parce que l'histoire, avec un grand H, comme je disais, a toujours un rôle considérable, mais elle est toujours envisagée du côté de ceux qui la subissent. Est-ce que c'est un point de vue qui est absolument capital pour vous? C'est celui qui vous donne envie de toujours raconter des histoires?
Oui, j'ai beaucoup plus de tendresse pour le pauvre type, dirons-nous. Celui qui maîtrise pas la situation.
Bardemus.
Qu'on ballotte dans tous les sens, comme ça. Et qui essaie de survivre quelque part, qui évidemment va se révolter à un moment ou à un autre. Mais c'est ce gars-là qui m'intéresse. C'est pas celui qui donne les ordres. C'est pas le chef de l'escadron. C'est le pauvre gars qui patauge dans la boue et qui cherche comment il va sauver sa peau, parce que je m'identifie à ce mec-là. Moi, j'ai jamais été intéressé par le pouvoir, l'argent ou quoi que ce soit. Ce que je veux, c'est qu'on me foute la paix et continuer à faire mon boulot le plus honnêtement possible. Et c'est ce gars qui m'intéresse.
Et Jacques Tardy, puisque je tiens un maître de la BD, enfin un maître, pas dans le sens maître-esclave, hein, bien sûr, je voudrais que vous partagiez avec nous votre dernier coup de cœur BD. Quelle est la dernière BD qui vous ait vraiment fait chanceler?
Alors là, vous me
posez une colle, ouais, une je sais que c'est
non, mais
alors qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Est-ce que vous lisez d'ailleurs beaucoup de BD vous-même?
Non, j'en lis pas beaucoup. Je suis assez déçu par la production. Je suis pas du tout manga. Je suis assez déçu. J'ai une répulsion totale pour les reprises de bandes à succès. Je trouve que c'est un peu facile tout ça.
Les déclinaisons, les Spirou, les.
Oui. Je veux citer personne, mais je trouve pas ça très flambant de faire ce genre de choses-là. Mais il y a des dessinateurs que j'aime bien, des dessinateurs que je suis, je regarde leur boulot. On va tomber, par exemple, si je parle de Muñoz, ça fait un moment qu'il n'a pas sorti de bouquin. Il y a Chosy, des dessinateurs comme ça qui ont un dessin particulier et qui justement sort de cette espèce de production calibrée qui plaît bien aux éditeurs.
Vous avez parfaitement répondu à ma question. Jacques Tardy, Dominique Grange, on va retourner en 1968 avec Charline Roux qui va nous rejoindre juste après un morceau tout à fait emblématique de cette année-là, c'est le Street Fighting Man des Stones.
Boy.
des Stones, cuvée 68, Street Fighting Man, et vient de nous rejoindre ma sparring partner à moi, ma fière et farouche Picarde, un peu moins sur les dents aujourd'hui, étant donné qu'elle sort de chez le dentiste. Bonjour.
C'est pas gentil, c'est pas charitable.
Bon, elle souffre, vous savez qu'elle souffre
ouais,
en ce moment,
vraiment.
Mais elle a pas
de vent sur
elle. Bonjour, Charline Roux. Charline, nous évoquions depuis le début avec Jacques Tardy et Dominique Grange, depuis le début de cette émission, la BD que nous tenons entre les mains, Élise et les nouveaux partisans. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Racontez-nous de quoi il s'agit exactement.
Élise est une jeune aspirante chanteuse qui monte à Paris en 58 pour tenter sa chance. Elle galère un peu, puis enregistre, puis donne des concerts. Mais mouvement contestataire de mai 68, eh ben, tout ça vient changer la donne et surtout la change, elle, durablement, même si elle avait déjà la révolte chevillée au corps. Elle refuse le retour à la normale. Elle rejoint le Maquis pour lutter contre toutes les injustices sociales. Vaste et noble tâche, mission de toute une vie. Et en exergue de votre roman graphique, un texte débutant par « J'ai eu 20 ans et même un peu moins, j'ai pris le matin tous les jours à 5h et même avant un bus, un train, un laminoir. Qui se souvient de ce que c'était ?» Ce texte est en réalité un commentaire publié il y a 3 ans sur YouTube, un texte sur lequel vous êtes tombé sous la vidéo de votre chanson « Les Nouveaux Partisans ». Est-ce que c'est ce commentaire de type partage d'expérience qui peut-être a été une forme de déclic pour vous lancer dans cette narration ?
Non, ça n'a pas été un déclic, mais ça c'était tellement ça que ce texte m'a complètement bouleversée. Que quelqu'un m'écrive ça, quelqu'un qui l'avait vécu et qui probablement a fait ça toute sa vie, ce qui n'était pas mon cas. Quand j'étais en usine, je savais très bien que je pouvais arrêter demain et recommencer à chanter, faire mon boulot, enfin bref. Et ça, c'est tellement, je trouve ce tout petit texte très court, je suis très contente que vous l'ayez choisi, parce qu'il est tellement emblématique de l'exploitation, de ce que signifie pour une personne être à la production toute sa vie, travailler pour la production capitaliste et n'avoir aucun autre espoir, que je trouvais qu'il fallait le citer. J'attends qu'un truc, c'est maintenant que l'album est sorti, j'espère savoir qui l'a écrit. J'espère qu'il va un jour m'envoyer un coup.
Qu'il se manifeste maintenant, peut-être pendant le direct. Alors c'est un album magnifique que ce Élise et les nouveaux partisans qui raconte donc toute cette période, cet engagement de la fin des années 60 jusque au début des années 70. Et c'est un album, Jacques Tardy, une fois de plus, en noir et blanc, comme la plupart du temps chez vous. Mais contrairement aux deux grandes guerres que vous avez dessinées, là, vous y étiez, vous avez connu vraiment le Paris de ce 68. Ça vous a pas du tout tenté d'évoquer la période en couleur?
Non, pas du tout, parce que bon, pour des problèmes techniques, c'est pas toujours très satisfaisant l'impression, etc. Bien que c'est fait énormément de progrès ces derniers temps, mais là je voyais pas l'intérêt de la couleur. Non, Paris pour moi est une ville grise, mais que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup faire des repérages, aller sur place.
Je sais si vous en faites.
Oui. Non, mais la couleur ne pas du tout rentré dans l'idée de fabrication de cet album.
Et Dominique Grange, vous dites que c'est un livre qui n'est pas nécessairement destiné à ceux qui ont vécu cette période, mais plutôt aux générations d'après. Est-ce que pour lutter, il faut savoir d'où la colère vient ?
Oui, je crois que c'est très important. Je crois que les colères d'avant nourrissent celles qui vont venir. Elles sont à la source. J'écris une chanson qui s'appelle « Les rivières souterraines », qui dit un peu ça, qui dit que quand la révolte, quand il y a des périodes de calme social et qu'on se dit tout va bien, bon, les gens se taisent, c'est pas parce qu'ils se taisent qu'ils sont heureux, et ça continue sous la terre, la rivière continue de couler, un jour, elle surgit. Je crois à ça, je crois qu'on a été nourri des idées de la Commune, et même aussi de 89, parce que c'est les valeurs fondatrices avec lesquelles on a grandi, à l'école laïque, notamment, même si j'ai été aussi dans une école religieuse, mais c'était pas ma décision, c'était pas mon choix. Et que toutes ces valeurs-là, on les restitue, on les transmet à travers ce qu'on a pu vivre. Alors d'où un peu l'envie impérieuse de d'écrire ça avant que la page se tourne, que le grand croque-mitaine nous croque
et nous mitaine. Bon, Dominique Grange, vous avez donc écrit cette histoire qui n'est pas exactement la vôtre, puisque le personnage s'appelle Élise et vous vous appelez Dominique, une Élise dont la conscience politique s'éveille avec le tristement célèbre massacre d'Algériens à Paris en 61 et 10 ans après, Élise est devenue une activiste. L'histoire démarre. Quels sont les points communs et les différences entre Dominique Grange et Élise, l'héroïne de ce récit ?
Moi, je me suis quand même un peu amusée aussi, parce que je lui ai fait faire des choses ou dire des choses que j'aurais peut-être pas forcément faites ou dites à ce moment-là. Et je veux conserver cette ambiguïté qui a été aussi ma liberté d'aborder des situations pas toujours formidables, ni héroïques d'ailleurs. Bon, sur la question de la violence, par exemple, on pourrait en parler longuement, c'est pas le but aujourd'hui, mais il y a des choses avec lesquelles je suis pas trop d'accord, et c'est Élise qui les fait, c'est pas moi.
Ce qui est très frappant dans le roman, au-delà de l'aspect sacrificiel de la lutte engagée, c'est ce sens incroyable du collectif qui prime en tout point sur le reste. On voit la mise en place d'un réseau aussi solide que solidaire. Où sont, selon vous, aujourd'hui les points de convergence entre les individus ?
Aujourd'hui, c'est compliqué. Tout le monde sait que les réseaux sociaux ont pris une place et même remplacé d'autres formes de convergence, y compris entre des inconnus, des gens qui peut-être se rencontreront jamais, ce qui est aussi quelque chose que j'ai du mal un peu à approcher personnellement. Les réunions en kikine tout le monde. D'ailleurs, maintenant, tout le monde est très content de faire des visioconférences. Ça évite d'être obligé de se retrouver. Donc, il y a une perte quand même du contact, même du contact physique. Pierre Perret a écrit une très jolie chanson. Bientôt, on va se faire des bisous. Je suis pas pour le bisou à tout crin, à tout le monde, mais on a quand même fortement manqué de contact et espérons que ce confinement ne deviendra pas un confinement sociologique qui s'installera et qui fera qu'effectivement la question de la solidarité va se poser énormément. Alors, on voit quand même par les réseaux sociaux beaucoup de demandes d'argent. De financement, de soutien, etc. Ça, c'est absolument incroyable. Est-ce que c'est ça, la solidarité dont on rêve ? On aimerait vraiment aller plus loin.
Est-ce que Élise, c'est une référence à la Élise de Élise ou la vraie vie de Claire Etcherelli, qui était le prix Fémina en 67, justement, et qui parlait aussi de ce qu'on appelait alors les événements d'Algérie ?
Absolument, absolument. J'ai adoré ce livre. C'est une référence, c'est un hommage aussi à Claire Etcherelli. Et j'encourage.
Il y a Marie Josénat.
J'encourage vivement. Marie Josénat qui jouait le personnage. J'encourage vivement les jeunes générations à lire ce bouquin. Pour moi, c'est l'exemple de l'engagement d'une jeune femme au service de ses idées. Il y avait aussi Simone Veil, pas Simone Veil la ministre, mais Simone Veil qui avait écrit La Condition ouvrière dans les années 30, je crois, et qui elle aussi s'était établie en usine à une époque où personne ne le faisait, que j'avais lu, qui était un bouquin qui m'avait beaucoup impressionné en philo.
Jacques Tardy, je vous ai posé la question autrement au début, mais enfin, ça doit être étrange d'avoir son sujet sous les yeux, puisque vous partagez la vie de Dominique Grange. Cette histoire, il y a un écho permanent entre ce qu'elle vous raconte, ce que vous interprétez, la manière dont vous allez le transposer.
Oui, mais on n'est pas toujours d'accord. Il y a des moments où, moi, je dis quand même. Moi, ce qui me sidère dans ce parcours, c'est l'histoire de cette gamine qui monte à Paris, qui fait du théâtre, qui chante, qui va jouer dans une série de l'époque, Le Temps des copains, etc. qui interprète même un tout petit rôle dans un film de
Louis Malle,
qui a toutes les chances de son côté, qui va rencontrer Guy Béard, etc. et qui
soutenu par Guy Béard
fiche tout en l'air. Bon, alors je comprends bien sûr ce qui sous-tend tout ça, mais quand même ça paraît très, enfin ça, pour moi ça continue à m'époustoufler. Je me dis j'aurais peut-être pas fait ça. Voilà, c'est tout. Donc ça m'intéressait de raconter ça avec les motivations relatées par Dominique, de raconter ça, et de pénétrer ce sujet et d'essayer d'être le plus proche possible de la réalité et de ce qu'elle pense.
Raconter ça, comme dit Jacques Tardy, ça c'est dans Élise et les nouveaux partisans. Ça sort aujourd'hui même chez Delcourt et c'est le livre dont on va continuer à parler jusqu'à 17h. Mais pour l'instant, je vois qu'il est 16h30, mes chers amis, et c'est l'heure des Pop News.
Après 20 ans d'existence, la bande à Caprano sort son premier best-of. Célébrons Franz Ferdinand comme il se doit avec Hits to the Head, qui contient la crème de la crème du rock pour faire danser les filles, comme ils aimaient le dire à leur début. Des standards, mais aussi un inédit, leur premier single depuis 2018, dit Hello à Billy Goodbye. Don't forget the best bit.
Billy Goodbye, when it comes to recollecting, don't forget the best bit.
Et Hits to the Head, le best-of de Franz Ferdinand, sortira le 11 mars.
En 2016, Emily St. John Mandel publiait un inquiétant roman post-apocalyptique, Station Eleven. Aujourd'hui, ce roman devient une mini-série dont la bande-annonce vient d'être dévoilée. Et laissez-moi vous poser le décor. Un supermarché désert tenu par un seul caissier, un homme accompagné d'une enfant qui remplit de multiples caddies.
Hey, excuse me. Is this because of that thing? Should I go somewhere?
You should go home.
Est-ce à cause de ce truc que l'homme fait de gigantesques provisions? Probablement, puisque la chose en question est une épidémie de grippe dévastatrice qui a décimé une bonne partie de la population. Station Eleven suit l'après, soit l'humanité, tentant de reconstruire un nouveau monde. Et non, ça ne me rappelle absolument rien. Station Eleven, avec entre autres Himesh Patel, vu dans Yesterday, et Gaël Garcia Bernal, débute sur HBO Max le 16 décembre et en attend un diffuseur français.
Et un autre nouveau anti-héros d'après les comics Marvel. Il s'appelle Michael Morbius, il est médecin, incarné à l'écran par Jared Leto. Le toubib est atteint d'une rare maladie sanguine et il est bien déterminé à soigner tous ceux qui souffrent du même mal que lui. Quitte à tenter des remèdes alternatifs en les testant lui-même, et l'un d'entre eux semble faire effet, mais...
J'étais mourant et aujourd'hui je suis plus vivant que jamais.
Ça a marché.
Pas exactement. Je suis plus fort, plus rapide. Et j'ai comme un sonar de chauve-souris. Est-ce que j'ai d'autres capacités?
Il y a des limites. Il y en a forcément.
Quelque chose en moi me pousse à chasser et à consommer du sang.
Peut-on être un vampire et faire le bien? Réponse dans Morbius de Daniel Espinosa avec Jared Leto, Matt Smith et Michael Keaton. Ce sera le 26 janvier au cinéma.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine de Gaulle.
Eh oui, c'est moi.
Michael Morbius ?
Non, le dentiste.
Non, il parle pas comme ça, mon dentiste.
Il parle pas comme ça, notre dentiste. Merci, Charline. Dominique Grange, Jacques Tardy, nous allons reprendre notre discussion à propos d'Élise et des nouveaux partisans. Alors, le point commun entre le personnage d'Élise et vous-même, Dominique Grange, c'est que, comme vous le dites, vous n'êtes pas une chanteuse qui milite, mais une militante qui chante. Et vous avez connu la prison et la clandestinité pour prix de votre engagement. Vous dites même que vous êtes une chanteuse engagée à perpétuité.
Oui, je le pense réellement. C'est-à-dire que je peux plus écrire une chanson qui n'ait pas un contenu utile. Mm-hmm. Voilà, il faut que les chansons véhiculent des choses qui soit puissent éveiller une conscience chez des gens, soit puissent aider d'autres, en aider d'autres à lutter, les soutenir, racontent leur vie. Chansons qui parlent aussi des conditions de logement des gens, de la précarité, etc. C'est pour moi, voilà, c'est l'écriture, c'est devenu ça. Et je pourrais absolument pas écrire une chanson d'amour ou une chanson poétique.
Ça veut dire que l'art doit être utile, doit être au service d'une cause.
Oui, j'en suis absolument convaincue. Peut-être pas au service d'une cause, mais que l'art doit aider les gens à ouvrir leur esprit, à avoir un esprit critique, à être... Voilà, ça doit pas être un truc pour les endormir ou pour les faire taire.
Et pourtant, malgré toutes les péripéties énoncées par Antoine, vous dites ne jamais avoir eu en tête que ce que vous faisiez était courageux.
Ah oui, parce que des gens courageux, j'en ai rencontré à l'usine, par exemple. Et j'en ai rencontré ailleurs, j'ai rencontré des gens qui vivaient dans les bidonvilles. Ça, c'est du courage, d'affronter la vie telle qu'on la leur propose, c'est-à-dire une vie dégueulasse, un avenir bouché, des conditions de logement insalubres. Ça, c'est du courage d'arriver à vivre là-dedans. Nous, on n'a aucun courage. D'ailleurs, on ne se prend pas pour des héros. Les militants ne sont pas des héros. C'est juste, ce sont des maillons de la chaîne. Voilà.
Jacques Tardy, ça veut dire quoi? À la maison, c'est exclusivement des chants révolutionnaires ou bien vous avez votre petit jardin secret?
Non, c'est pas seulement des chants révolutionnaires. Il y a de la musique de temps en temps, pas tout le temps. Pour travailler, c'est pas. Je sais qu'il y a des dessinateurs qui ont besoin de ça pour bosser. Bon, je vais pas me mettre de la musique la garde républicaine quand je bosse sur la guerre des tranchées. Mais pour revenir à ce que disait Dominique, c'est vrai, une chanson Il faut qu'elle serve à quelque chose. Il faut qu'elle soit utile. Bon, mais c'est du concentré de tomate. C'est quelque chose qui est très...
3 minutes.
Hein, c'est brut, c'est bon. Une bande dessinée, c'est différent. On a de l'espace, on a plus de temps, mais il faut aussi que ça serve à quelque chose. Sinon, c'est inutile. C'est pas la peine. Ça peut être très joli, ça peut être décoratif, tout ce que vous voulez. Virtuose, etc. On s'en fiche de ça. Il faut qu'il y ait un contenu.
Un propos.
Oui. On cause à des gens et il faut qu'ils vous écoutent. Et pour qu'ils vous écoutent, il faut les bloquer sur votre bouquin par l'intermédiaire de votre dessin qui doit les intéresser, si possible, les convaincre.
Élise est une femme forte, déterminée. Pour autant, Jacques Tardy, est-ce que vous l'avez envisagée comme une héroïne au sens Adèle Blanc-Séquien du terme,
non,
si vous
non,
me permettez le néologisme?
Non, pas du tout, pas du tout. Là, on est dans un autre registre. Adèle Blanc-Séquien, c'est
aussi... Mais encore une héroïne forte. Pour le coup.
Oui, mais enfin, dans un genre qui est très balisé, roman feuilleton, etc. Mais quand même, Adèle Blanc-Séquien arrive sur le terrain après l'année de la femme. Il y a eu l'année de la femme et j'aurais pas pu faire une histoire de pilote automobile ou de militaire dans l'armée de l'air. Mmh. C'était impossible. Donc ça a été
Michel Vaillant ou Tanguy et la Verdure, pour ne citer que.
Ça a été très important. Et en plus de ça, ce qui me gênait, c'est que les personnages de bande dessinée n'avaient pas d'activité. On savait pas comment ils gagnaient leur vie. Mmh. On avait beau nous dire que Tintin était reporter, on le voyait jamais bosser.
Jamais
etc.
écrire, pas une ligne,
bon.
Rien.
Alors Adèle Blanc-Séquien, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va pas diriger une entreprise de plomberie ou je sais pas quoi. Elle fait le même boulot que moi. Hein, elle écrit des romans feuilletons. Pour ça, elle se déplace, elle rencontre des gens. Et elle a en permanence des problèmes avec son éditeur qui n'est pas content des couvertures de ses fascicules, il le fait redessiner, ça n'a rien à voir avec le contenu et tout. Donc elle a des problèmes. Mais évidemment, on peut pas passer tout un album sur les difficultés qu'elle aurait avec l'éditeur. Donc elle va à droite, à gauche, elle vit des choses extraordinaires. Bon, c'est comme ça, c'est la loi du roman feuilleton.
Dominique Grange, je reviens à vous, parce que dans Élise et les nouveaux partisans, ce livre que vous avez donc co-signé avec Tardy, qui en assure le dessin et qui sort aujourd'hui même, vous racontez qu'en 68, vous vous êtes engagé dans les rangs de la gauche prolétarienne, c'était un mouvement d'inspiration maoïste, et dans la postface du livre, vous évoquez ces témoignages glaçants sur la révolution culturelle, les purges, les millions de morts, enfin le livre de Simon Leys, sorti en 71 et qui levait un coin du voile sur cette histoire. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas intégrer ces infos dans le cours de l'histoire et attendu la postface pour mettre les choses au point?
Mais tout simplement parce qu'à l'époque, on n'en parlait pas. C'était vraiment l'omerta complète. Donc nous, on percevait de la révolution culturelle que ce qui, au fond, quelque part, nous arrangeait, c'est-à-dire la critique des cadres, la critique de la structure même, de la direction, le fait que les gens pouvaient se remettre en question, se remettre en cause, on pratiquait cette autocritique. D'ailleurs, on la pratiquait nous aussi dans notre forme de militantisme.
Vous le racontez très bien, d'ailleurs.
On était capable de réfléchir pourquoi un truc avait marché, pas marché, ce qui était en cause, comment on avait été par rapport aux gens qu'on était prétendait soutenir ou aider. Est-ce qu'on avait été une espèce d'avant-garde révolutionnaire très loin des préoccupations des masses ou au contraire, est-ce qu'on avait été conscient de ce que les gens demandaient? Donc ça, c'était les aspects positifs qu'on percevait, la révolution culturelle, que sans fleurs s'épanouisse. Donc le débat, partout, tout le temps, c'est vrai que c'était extrêmement séduisant. Après, tout ce qui concerne les violations des droits de l'homme, dans quelque pays que ce soit, jamais je ne pourrais le soutenir.
Je ne peux m'empêcher de relever que vous nous rendez visite le 3 novembre, jour de sortie du livre, mais aussi date à laquelle, depuis ce matin à 9h22, les Françaises ne sont symboliquement plus payées jusqu'à la fin de l'année. Une question d'inégalité salariale par rapport à leurs homologues masculins. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Elles sont plus...
C'est-à-dire que si on fait un ratio à l'année de ce qu'on est payé face aux hommes, on part du principe qu'à partir depuis ce matin, 9h22, nous les femmes travaillons pour du beurre, si on doit remettre les salaires à égalité.
Comment voulez-vous que je vous dise que je suis d'accord avec ça?
Bah non, je me doute bien.
Vous demande pas, Dominique.
Je cherche des pistes de réflexion, des ébauches de solutions.
Et ça, les ébauches de solutions, j'en ai pas. À part la révolution, je pense que toutes les inégalités sociales, toutes les injustices qu'on peut repérer dans cette société, il y en a 90% qui seront jamais résolues par des chefs d'État ni par des gouvernements. Parce que si l'État faisait ce boulot-là, il ne s'appellerait plus l'État. Donc c'est à nous de prendre ces choses-là en main, et les femmes le font déjà beaucoup, et on a besoin des hommes aussi.
C'est une très belle histoire de femme que cette Élise et les nouveaux partisans qui sort aujourd'hui même chez Delcourt, signée par Dominique Grange et Tardy. On n'en a pas fini avec vous, on va continuer à en parler dans quelques instants. Et dans la suite de Pop Pop Pop, Dominique Grange et Jacques Tardy, il sera question de...
Les mineurs sont en route, des centaines de toute la région.
Herrschaft.
La maman des poissons, elle est bien gentille.
De Bobby Lapointe, bien sûr, du film Le Testament du Docteur Mabuse, de la série Germinal et de Pop Culture. Tout ça, ce sera juste après le nouveau single du groupe Hills, Steam Engine. C'est le nouvel extrait du 14e album studio du groupe américain Hills, Extreme Witchcraft, qui sortira, lui, le 28 janvier prochain. Vous écoutez Pop Pop Pop, ou plutôt l'émission de Pop Culture de France Inter, qui traite la culture de façon... Et ça, c'est le générique de Thierry Lafronde, composé par Jacques Loussier, et c'est ce qui vous évoque la pop culture, Dominique Grange. Expliquez-nous pourquoi, et lâchez cette fronde, s'il vous plaît.
Eh bien, peut-être parce que justement, il y a une fronde dans l'affaire, et je suis une frondeuse. Mais je sais pas, cette musique, c'était un moment de la journée. Quelque part, elle marquait ce moment de la journée. On était devant Thierry, c'était quand même le début des séries.
Ouais.
Donc on courait voir Thierry Lafronde, Jean-Claude Drouot, magnifique dans ce rôle. Et puis c'était aussi un hommage à Jacques Loussier, que je connaissais bien. Qui a fait les arrangements de mes premiers disques et qui était un musicien fantastique, un peu oublié, je trouve. qui n'a pas, on n'en parle pas souvent, et voilà, c'était aussi ma façon de lui...
De lui rendre hommage.
De lui rendre hommage.
Honneur à la mémoire de Jacques Lussier, aujourd'hui dans Pop, Pop, Pop. Et vous, Jacques Tardy, c'est un son gainsbourgien auquel vous avez pensé.
Viens, petite fille, dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des...
De toute évidence, c'est la pop culture, ça.
Oui, mais le whiz, là, ce ouais. truc qu'on a entendu, c'est insupportable. Je trouve, chaque fois qu'on parlait, chaque fois qu'il y avait une émission sur la bande dessinée, il y avait ça en...
Whiz.
Oui, en ouverture et tout. Et je me demande si c'était pas... une musique pour une série dessinée par Forrest.
Je me souviens très bien des dessins de Forrest. Est-ce que
ça s'appelait Marie Mathématique ou quelque chose comme ça?
Alors là, vous me posez une colle. Je ne peux pas vous répondre dans l'instant. Et Charline est déjà en train de pianoter comme une folle pour nous trouver la réponse.
Cette musique était utilisée. Et après, chaque fois qu'on parle de bande dessinée, on avait le whiz. Bon, c'est assez pénible quand même.
Bon. On y reviendra tout à l'heure. Restons dans cette pop culture, dans votre pop culture.
C'est tout à fait une musique de Gainsbourg.
Oui,
c'est une musique de Gainsbourg.
Non, mais dans Marie Mathématique.
Voilà,
d'accord, bravo.
Et la petite sœur de Barbarella.
Oui, et ça, c'est les années 58, 59, des choses comme ça.
65, 66. Dans l'émission Dim Dam Dom.
Chapeau bas à Jacques Tardy. Bravo.
Dim Dam Dom, tu connais, toi?
J'en ai fait un, oui.
Restons-en là dans la machine à remonter le temps. Oui, et restons dans la pop culture avec votre pop culture à vous. C'est l'heure de votre pop list. Quel film, quel livre, quelle série nous conseillez-vous? Nous allons le savoir tout de suite. Alors, le livre du moment que nous conseille Dominique Grange, c'est Prison numéro 5 de Zera Dogan. Charline, il s'agit d'une BD et de l'histoire d'une femme qui, là encore, va au bout de ses convictions. Dites-nous-en un peu plus.
Zera Dogan est une artiste kurde condamnée pour un dessin et une information qu'elle a relayée. Elle est enfermée dans la prison numéro 5 de Diyarbakir en Turquie et partage dans ce livre son quotidien carcéral.
Dominique, vous avez une page du livre sous les yeux, mais c'est des bulles, je ne sais pas si c'est très facile à lire.
Non, elle se présente.
Oui, allez-y.
Donc c'est assez facile.
Citez-la-nous.
Je m'appelle Zera, je suis à nouveau emprisonnée. Après Mardin, cette fois, c'est à Diyarbakir. L'envie de dessiner ne me quitte pas. Pourtant, ici, le matériel artistique est prohibé. Mais j'ai trouvé une parade. Mon amie Nazoké m'écrit... Et sur ces lettres dont elle laisse le dos vide, je vais faire mes dessins et secrètement les faire évader. J'espère que toutes les planches vous parviendront. Comment vous raconter cette geôle, ces murs peuplés d'histoires, où je me sens si petite?
Alors, ça c'est extrait donc de Prison numéro 5 de Zera Dogan. Pourquoi est-ce qu'il vous plaît tellement ce livre, cette bande dessinée-là?
Ben d'abord parce que c'est pas vraiment une bande dessinée, mais c'est un témoignage tellement fort de la façon dont les Kurdes sont traités en Turquie, de la répression qu'ils subissent, des enfermements, des tortures. Il y a des pages entières consacrées aux tortures que subissent les hommes, qui sont absolument indescriptibles et qu'on peut à peine supporter de regarder ça. Mais elle a eu le courage de le faire. Elle l'a fait avec un matériel très très limité, évidemment, très rudimentaire. Elle écrit avec le sang de ses règles, avec les fientes des pigeons sur le bord de la fenêtre. Elle résiste avec tout ce qu'elle peut trouver, avoir sous la main, et elle fait évader ses dessins au dos donc des lettres que lui écrit son ami Naz. C'est, je trouve, un portrait de femme absolument exceptionnel. Elle vit maintenant, elle ne peut évidemment pas retourner en Turquie, elle serait immédiatement emprisonnée. Mais elle expose, elle dessine, elle peint et elle continue de dénoncer le sort des Kurdes et le sort aussi de leur dirigeant Öcalan, qui est emprisonné sur une île depuis des années.
Et là encore, l'engagement jusqu'au bout.
Jusqu'au bout.
Jusqu'au bout. Jacques Tardy, le film que vous nous conseillez de voir ou de revoir aujourd'hui, c'est Le Testament du docteur Mabuse, réalisé par Fritz Lang. Charline, vous qui n'avez pas perdu votre langue comme Fritz, si je ne m'abuse, comme dirait ce bon docteur, dites-nous de quoi ça parle.
Mabuse est un criminel devenu fou. Il est interné en hôpital psychiatrique et grâce à l'hypnose, il tient sous son joug le directeur de l'asile et commence à se monter une petite armée.
D'un film de 1933, ce docteur Mabuse.
Gloria. Gloria. Il dit ça sur son lit. Mm-hmm. Non, en fait, c'est plus Fritz Lang en général que ce film-là. Il y a les Mabuse muets aussi qui sont magnifiques. Alors là, il y a tout un matériel qui m'a absolument séduit au niveau des décors, des personnages, des situations. J'avoue que Fritz Lang a été pour moi une influence, une source d'influence très très importante. Voilà pourquoi je parlais de Docteur Mabuse. Et puis c'est très étonnant parce que la scénariste Von Arbou, elle s'appelait la femme de Fritz Lang, était nazie. Hein. Mm-hmm. Alors on connaît l'histoire de Fritz Lang auquel Goebbels demande de prendre en main le cinéma allemand de l'époque. Fritz Lang, le soir même, paraît-il, prend le train, il arrive à Paris, où il va faire un film qui s'appelle Lilium. Ici, il va tourner en France avant de partir aux États-Unis. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est peut-être la seule chose intéressante chez Von Arbou, là, sa femme, c'est qu'elle va inventer le conte à rebours. Il y a un film muet qui s'appelle Une femme sur la lune, et c'est la première fois qu'on lance une fusée, et on a 5, 4, 3, 2, 1, c'est la première fois. Elle aurait inventé le conte à rebours.
Voilà. Bravo Dominique Bravo. Grange, je reviens à vous, façon de 1933 à 2021, car la série que vous regardez en ce moment, c'est Germinal. C'est une série franco-italienne créée par Julien Lilti, réalisée par David Oureg et diffusée sur France 2. Charline, vous avez lu le livre, vous avez vu le film. Parlez-nous de la série.
Sans hasard, une histoire de lutte dans les corons, avec pour meneur de et conscience Étienne Lantier, instigateur d'une grève à l'encontre de la compagnie des mines qui a décrété la baisse du salaire des miniers qui ont déjà des conditions de travail très pénibles.
Camarades, vos revendications sont justes. Et la justice ne se demande pas, elle s'impose!
Les mineurs sont en route, des centaines de toute la région.
Seul un idiot quitte la partie avant d'encaisser ses gains.
La seule solution pour que les patrons nous respectent, c'est l'union des mineurs. Alors maintenant, vous avez le choix. Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes avec les patrons. Mais il n'y a pas d'entre-deux.
Dominique Grange, je ne sais même pas si je vous pose la question pourquoi avoir choisi cette série. Je crois que la réponse est dans la question. Mais elle vous plaît cette adaptation éponyme du roman de Zola ?
Oui, enfin les adaptations c'est toujours un peu frustrant par rapport à l'œuvre originale. Ça a le mérite de mettre des images quand même. Mmh. Et la mine, et le travail à la mine est quelque chose de tellement oublié depuis que la dernière mine a fermé, je crois, dans les années 90. Je crois que c'était la mine de Forbach. Mm-hmm. Je suis pas sûre.
Oui,
les historiens nous diront. Mais il y a eu encore des catastrophes minières peu de temps avant. Il y a eu une catastrophe notamment à Liévin, une autre à Lens. Il y a eu la fameuse catastrophe de Fourrières en 1905 qui a fait plus de 1000 morts. Enfin,
c'est une manière aussi de rendre hommage à,
oui, bien
à tous
sûr.
Ces hommes qui ont laissé leur vie dans ce métier.
Toutes les gueules noires. Ouais. C'est une période du travail qui a été un peu oubliée et mise au rebut. Et pourtant, c'est aussi dans les mines qu'a commencé la résistance en 1941. C'est là que le premier drapeau rouge a été planté sur un puits de mine avant que les hommes descendent en bas.
Je reviens, pardon, à des considérations plus pratiques et terre-à-terre, mais terminons cette pop-liste en musique avec le choix de Jacques Tardy. Et ce choix, c'est La Maman des Poissons, signé Bobby Lapointe. Tiens, écoutez-la, cette chanson.
Si l'on ne voit pas pleurer les poissons qui sont dans l'eau profonde, c'est que jamais, quand ils sont polissons, leur maman ne les gronde. Quand ils s'oublient à faire pipi au lit, ou bien sur leurs chaussettes, ou à cracher comme des papolis, elle reste muette. La maman des poissons, elle est bien gentille, elle ne leur fait jamais la vie, ne leur fait jamais de tartines. Ils mangent quand ils ont envie, et quand ça a dîné sardine. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. La maman des poissons, elle est bien gentille, filles s'ils veulent prendre un petit verre. Elle les approuve de deux ouïes, leur montrant comment sans ennui on les décroche de leur patère. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. La maman des poissons, elle est bien gentille. S'ils veulent être maquereaux, c'est pas elle qui les empêche de se faire des rêbles sur le dos dans un banc à peinture fraîche. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. La maman des poissons, elle est bien gentille. J'en connais un qui s'est marié à une grande république. Il dit quand elle lui fait la nique, ah qu'est-ce que tu me fais marrer. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. Si l'on ne voit pas pleurer les poissons qui sont dans l'eau profonde, c'est que jamais quand ils sont polissons, leur maman ne les gronde. Quand ils s'oublient à faire pipi au lit, ou bien sur leurs chaussettes, ou à cracher comme des papolis, elles restent muettes. La maman des poissons, elle est bien gentille.
La maman des poissons dans Pop 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 sur France Inter, et c'était le choix de Jacques Tardy, venu nous parler aujourd'hui de cette bande dessinée Élise et des nouveaux partisans. Dites-moi juste un mot de Bobby Lapointe pour terminer, Jacques.
Ah, Bobby Lapointe, c'est formidable, c'est complètement déconnant. Mm-hmm. Hein. Je l'ai rencontré une fois, on a bu des coups ensemble dans un bistrot, et c'était un type charmant, charmant. Mm-hmm. Voilà. Et puis ces chansons sont délirantes. Ça, par exemple, c'est le genre de truc que j'écoute.
Que vous écoutez discretos.
C'était très dur de passer derrière lui. Moi, j'ai fait du cabaret avec lui, au Port du Salut. C'était difficile de passer après lui, parce que j'imagine. Les gens étaient tellement écroulés. Ils n'écoutaient pas rien de sérieux.
Dominique Grange Tardy, merci infiniment d'être passé par notre studio aujourd'hui pour parler de Élise et les nouveaux partisans sortis aujourd'hui même chez Delcourt et qui est évidemment recommandé par Pop Pop Pop. Merci à vous deux.
Merci à vous.
Et merci Charline.
Merci.
À demain, et merci aussi à toute l'équipe de Pop 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 et à Benjamin Troncin qui était à la technique aujourd'hui. Demain dans l'émission, l'auteur américain Jack Lamar nous plonge dans le Harlem des années 30. Mais avant demain, rendez-vous partout sur les internets, 3615 Pop Pop Pop.